Ce matin, j'avais à cœur, en circonstances un peu particulières, j'ai pensé partager sur deux textes qui sont en fait la répétition d'un même texte, mais qu'on va lire à haute voix pour deux personnes. J'ai désigné Rémi, qui va lire le premier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 1, fortement, clairement, comme une proclamation.
Alors juste avant, je fais l'aparté, j'ai juste, la... Donc, pendant le moment de prière, le passage de Jean 15, 4, je me permets. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Voilà la parenthèse.
Amen.
Merci. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
Amen. Et puis, le même texte qui figure dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 9, à haute voix, clair et intelligible. Amen. Nous venons d'avoir une parole, on a eu plusieurs paroles prophétiques, mais une parole qui disait « Je vous encourage à prier ». Je vous assure que je n'ai pas discuté avec la personne qui a porté cette parole et qu'elle ne savait pas quel était le sujet de la prédication de ce matin. Puisqu'en fait, il s'agit bien de la question de la prière, mais pas seulement de la prière dans le sens où souvent nous l'entendons. Alors vous connaissez toutes, peut-être qu'il y a un seul texte qui est connu par cœur par l'ensemble des croyants et des chrétiens, quelle que soit leur obédience, c'est bien ce texte-là ou ces deux textes-là. Elle fait partie de notre culture judéo-chrétienne, mais est-ce que ce texte-là aujourd'hui peut encore nous parler? Ou bien est-ce que, comme beaucoup de textes qu'on appelle des textes fondateurs, ce sont des textes tellement connus que finalement, on les récite plus qu'on ne les lit. On les entend plus qu'on ne les écoute. Je crois qu'il y a dans ces deux textes-là, rapportés par deux évangélistes différents, une profondeur et une richesse qui souvent nous échappent. On a des grands textes qui sont enfermés dans une compréhension qui nous semble entière, définitive, arrêtée. Et moi, j'aime bien revisiter ces textes-là et les reprendre. Notre Père, c'est certainement un des textes les plus à la fois fondateurs de notre foi, puisque, comme le dit un disciple, apprends-nous à prier, et Jésus commence par dire, eh bien, si vous priez, dites. L'évangile de Matthieu s'inscrit pour sa part la prière du Notre Père dans un discours. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous serez étonné de voir que le Notre Père est intégré au récit le plus long des discours de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur plusieurs chapitres qui ne s'arrête pas, et dedans, vous avez le Notre Père. Ça va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et quand Jésus, au verset 28, dit « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules furent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. » C'est-à-dire que l'enseignement dans l'évangile de Matthieu est quelque chose qui stupéfait les auditeurs. Alors, ça s'enchaîne dans ces discours de l'évangile de Matthieu. Alors, est-ce que ce sont des réponses que Jésus apporte sur des questions qui sont posées par les disciples ? Et on est là, véritablement, dans le rapport entre le maître et les disciples, voire les auditeurs, qui sont proches du comportement des juifs à la yeshiva, c'est-à-dire à l'école pour apprendre à comprendre Dieu. Le maître sait, on l'interroge, il répond, etc. Bon. Peut-être est-ce cela chez Matthieu, puisqu'on est dans un évangile qui s'adresse plus particulièrement au peuple d'Israël et aux Juifs. Le texte du Notre Père, il nous est parvenu sous ces deux formes. Ce texte de Matthieu que nous venons de lire, qui est plus long que celui de Luc. Et avec une petite différence, c'est que le texte de Matthieu se termine par cette doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et c'est une doxologie qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits anciens qui ont permis de recevoir le Nouveau Testament et notamment les évangiles. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que il n'y avait que quelques manuscrits qui comportaient cette doxologie. Et en même temps, elle est devenue quelque chose qui semble une part intégrante, mais qui crée beaucoup de troubles quand on récite le Notre Père entre protestants, voire protestants et catholiques, parce que quand on arrive et ne nous soumet pas l'attention, mais délivre du malin, il y a un temps d'hésitation où les uns basculent sur la doxologie, car c'est à toi qu'à part, puis d'autres qui s'arrêtent, et puis il y a un flottement. Il faut savoir que cette doxologie, elle a été inscrite dans la Didaké, qui est un livre, une catéchèse qui appartient à la fin du 1er siècle pour les croyants. Et la Didaké explique aux chrétiens ce que c'est que la foi chrétienne. Et dans la Didaké, il y a une reprise du Notre Père, bien évidemment, qui est un texte fondamental. Et la Didaké intègre la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette prière qui est apportée par Christ, c'est une prière d'origine juive. Or, les juifs ne terminent jamais une prière sur une demande. Et je trouve ça très bien. Et donc, dans la prière juive, les manuscrits qui ensuite mentionnent, notamment dans la Didaké à la fin du 1er siècle, cette doxologie, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Amen. C'est la forme d'une prière juive normale. On ne se contente pas de demander à Dieu. On le glorifie. Et je trouve que dans nos prières, nous serions tout à fait amené à avoir cette même attitude. Demander, parce que nous sommes, et on le verra dans une relation, c'est une chose, mais la relation, c'est... J'ai une de mes filles qui est là, si elle s'était contentée toute sa vie de me demander, à un moment donné, je me serais lassé. D'ailleurs, par jeu, quand mes enfants venaient vers moi en me disant « Papa, j'ai quelque chose à te demander », je disais « Non ». Elle me dit « Mais attends, j'ai rien demandé ». « Oui, mais c'est en prévision ». Je ne suis pas un bon père, pas semblable à celui que nous avons. Et il s'attend aussi à ce que, quand nous demandons, nous soyons dans une attitude de foi, de reconnaissance et d'amour. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. En vérité. Et cela, c'est dans le texte de la Didaké et dans certains textes anciens qui clôturent le Notre Père. Alors, le texte du Notre Père, il nous est parvenu en grec, il a été dit en hébreu ou en araméen. Il a bien existé sous cette forme-là, mais finalement, il nous est arrivé sous sa forme grecque. Et alors, il y a eu effectivement des théologiens qui ont essayé de faire une rétro-version, c'est-à-dire revenir du texte grec au texte hébraïque. Et quand ils l'ont fait, ils l'ont traduit, je ne vais pas vous dire le texte grec, mais de cette manière-là, comme s'il était dit en hébreu, « Père à nous qui es aux cieux, sanctifié soit le nom de toi, vienne le règne de toi, accomplis le vouloir de toi, comme au ciel, ainsi sur la terre. » Le pain de nous, suressentiel, donne-nous aujourd'hui. Remets les dettes de nous, comme nous avons remis aux débiteurs de nous. Et nous, laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quand on relit cette traduction du grec vers l'hébreu qui a été utilisée, on s'aperçoit que la première partie de notre Père est axée sur à la fois Père à nous, mais après c'est « Sois sanctifié le nom de toi, le règne de toi, le vouloir de toi, comme au ciel sur la terre ». C'est-à-dire que toute la première partie est tournée vers celui qui est Dieu, celui qui règne, celui dont la volonté est fondée. Et à partir du moment où on dit « comme au ciel », c'est-à-dire en clair, de la même manière que tu règnes dans le ciel et que tu es dans le ciel, que ce soit ainsi sur terre, sur terre. Et à partir du moment où la prière dit « sur terre », alors il n'est plus question de toi, mais de nous. Le pain du nous, de nous suressentiel. Donne-nous aujourd'hui les dettes de nous, débiteurs de nous, nous laisse pas rentrer, délivre-nous. C'est-à-dire que quelque part, le Notre Père est d'abord axé sur la réalité de Dieu, sur ce qu'il est. Comment devez-vous prier? Eh bien, d'abord, levez vos yeux. Et il est tellement étonnant de voir que souvent, quand nous prions, nous sommes tout de suite dans le « nous » et non pas dans l'adoration du « toi ». Dans la découverte du toi, dans la réalité de ce que Dieu est. De toi, dans le ciel de toi, le règne de toi, le vouloir de toi. Alors, je dirais, cette prière est assez étonnante et bouleversante. Elle commence dans l'évangile de Luc, par une explication qu'on ne trouve pas dans Matthieu. Matthieu, son Notre Père fait partie des discours. Et il s'adresse à des Juifs, il n'a pas besoin de leur expliquer le contexte. Luc, lui, s'adresse, puisque Luc est un médecin grec d'origine ou de culture grecque, et qui suit Paul, eh bien il s'adresse à une autre population. Et dans l'évangile de Luc, l'introduction au Notre Père se trouve dans une demande formulée par un disciple. On ne sait pas lequel est le disciple. Mais il dit ceci, « Seigneur, en s'adressant à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Apprends-nous. » C'est le verbe didasco qu'on retrouve dans la didaké, l'enseignement, hein, ce texte de fin du 1er siècle. Hein. « Apprends-nous. » Donne-nous des instructions, explique-nous comment on doit faire, donne-nous la méthodologie pour prier. Et on s'aperçoit que cette demande-là est assez éloignée de la réponse de Christ. Le disciple, il veut un moyen, une méthode, un mode d'emploi. Comment on prie? Et Christ, lui, commence en disant, ben, si vous voulez prier, quand vous priez, dites Père. Père. Ah ouais, d'accord. Donc, moi, je te demandais juste un mode d'emploi. Je ne te demande pas quelle est la relation que j'ai avec celui que je prie. Dis-moi comment on fait. C'est très étonnant de voir que Christ, dans la prière, invite à rentrer dans une relation, et pas n'importe quelle relation, celle d'un enfant avec son père. Alors que nous, on serait là, explique-nous comment on doit faire, comment on doit, quel mot on doit utiliser, de quelle manière, quel comportement je dois avoir quand je prie. Est-ce que aussi je dois me mettre à genoux? Moi, je ne sais pas, c'est au collège biblique, on était dans l'imitation et on voyait des gens qui nous semblaient tellement spirituels. Je pense notamment à certaines sœurs, elles priaient à genoux pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Moi, au bout de cinq minutes, j'avais mal aux genoux. Mais je faisais comme. Alors j'essayais, je me disais, on avait une chambre haute en haut du bâtiment où les gens venaient, s'asseyaient. Alors il y avait plein de chaises, parce que c'était, on faisait le culte une fois par mois dans le collège. Mais en général, les gens qui montaient là, ils se mettaient par terre assis ou à genoux et il priait. Il ne s'asseyait pas sur les chaises. Moi, j'étais en chambre avec un type qui s'appelait Michel Cannon. Et donc, quand le matin, on devait prier, ben, on ne pouvait pas rester dans la chambre tous les deux. Donc, j'étais condamné à migrer parce que c'était un ancien. Respect aux anciens. Il avait un hiver de plus que moi. Donc, je le laissais prier dans la chambre. Il avait le droit à la chambre. Et moi, je montais dans la chambre haute. Tu te rappelles? Et puis, quand j'ai vu comment priaient les autres, je dis, bah, je vais faire pareil. Je dis, mais c'est bête, il y a plein de chaises. Pourquoi on ne s'assied pas dessus pour prier? Non, non, bah, on s'assied par terre, on se met à genoux, etc. Apprends-nous à prier. Et puis, on pense que prier, c'est y mettre les formes corporelles, dans les mots, les attitudes, voir le vocabulaire. Moi, je suis très touché par ceux qui prient comme ils parlent et qui parlent comme ils pensent et qui pensent selon leur cœur. J'aime beaucoup cela. Puis il y a des prières qui sont peut-être plus élaborées, avec des vocabulaires plus riches. Voilà, alors chacun choisit sa forme. Mais l'important, c'est que la forme soit proche du cœur de Dieu. Alors, là où Christ est sollicité pour dire « Apprends-nous, donne-nous la méthode, comment faut faire ?» Il commence par dire « Quand vous priez, dites « Père. » Et quand il prononce ce mot-là, il ne parle pas d'une méthode, il parle d'une relation. Relation père-fils, père-fille. Je ne sais pas qui était ce disciple, on n'en connaît pas le nom, mais il a dû être déstabilisé. Il a dû se dire, mais est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Ah si, si. Tu veux prier, alors dis Père. Dans l'évangile de Matthieu, lorsque Matthieu présente le Notre Père, il dit, Seigneur, voilà, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, vous devez prier, voici donc comment vous devez prier, Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Et j'aime bien cette formule-là, parce que pour les Juifs, ça ne peut pas être uniquement quelque chose d'individuel. C'est Notre Père. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc pour les Juifs, la prière vers Dieu, c'est forcément connoté à une dimension collective. Vous voulez prier, priez pas n'importe comment pour faire de l'esbrouf, etc. Dites Notre Père, parce que vous êtes peuple de Dieu. Luc s'adresse à des païens, donc la dimension collective est moins évidente. Il dit, quand vous priez, dites Père. Le Notre a disparu dans la version de Luc. Simplement parce qu'il s'agit là de dire, voilà, c'est dans une relation que je t'attends, que ton Dieu t'attend, et une relation de filiation. La notion qui est soulignée dans l'évangile de Luc, c'est que le disciple dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples, comme, faire comme, c'est-à-dire... donne-nous aussi un mode d'emploi comme Jean-Baptiste l'a donné à ses disciples. Faire comme. Il n'y a rien de plus détestable que de vouloir faire comme l'autre. Alors, il y a des temps où il est bon de faire comme. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 3:9, ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Alors, faire comme, il y a parfois une bonne chose à imiter l'autre. Et là, le disciple dit, Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses propres disciples. Vous savez, quand est-ce que le désir d'imitation est arrivé dans le cœur de l'homme? Non, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. La première fois où il a été proposé à l'homme de faire comme. Genèse 3:5, Dieu le sait, le jour où vous en mangerez de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La première tentation de l'homme, c'est de devenir comme des dieux. Alors, comme des dieux, c'est une formulation en hébreu qui est assez révélatrice, parce que comme des dieux, c'est Elohim. Elohim, en hébreu, c'est des dieux. Hein, c'est un Dieu au pluriel. Alors, est-ce que ça parle de la Trinité ? Mais avant qu'il ne soit révélé comme Yahvé, celui qui est, le texte hébreu présente Dieu comme Elohim. Vous serez comme des dieux. Ah, ça, ça me tente d'être comme un dieu. De me séparer de la tutelle de mon Dieu, de me séparer de la tutelle de mon Père pour être comme un Dieu, c'est la tentation originelle. Être sans Dieu, être comme un Dieu. Alors, est-ce que dans la prière, on veut être faire comme ? On pourrait comprendre le texte de Paul en disant oui, il s'agit d'imiter Paul. Moi, quand je suis arrivé au collège biblique, j'ai imité Michel. Mais vraiment, il allait travailler le soir après les cours et le repas à la bibliothèque. J'allais travailler le soir après les cours à la bibliothèque. Il travaillait sur les textes de la Bible. J'ai choisi un texte. Je n'ai pas vérifié, lui, ce qu'il avait. Il m'a dit, bah voilà, nous, on travaille comme ça. Il dit, bon, OK. Et moi, comme je vous l'ai dit une fois, j'ai ouvert la Bible, j'ai choisi. Bah, je vais commencer par Ésaïe. Quand, au bout d'un mois et demi, j'étais arrivé au troisième verset. Je me suis dit, je vais peut-être choisir quelque chose de plus court. Mais je l'ai imité. Et parfois, au début, il est bon d'imiter. Et si un enfant, au-delà de ses 5-6 ans, ne continuait à vivre et à fonctionner qu'en référence à ce que ses parents lui disent, à copier, etc., sans développer sa propre capacité à expérimenter, à s'individualiser, à s'autonomiser, on finirait par avoir des parents qui s'inquiètent en se disant « Mais enfin, c'était bien qu'ils copient sur ce qu'on fait en matière de sécurité, etc., qu'ils ne mettent pas la main sur le gaz ou sur le four quand c'est allumé. » Oui, mais à 5-6 ans, ce qu'on veut, c'est qu'ils découvrent l'altérité, la liberté. Alors, face au choix d'être, est-ce qu'il faut copier le pasteur, la sœur qui est à côté de nous, qui est une figure d'autorité. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Heureusement que celui-là, on ne connaît pas son nom, parce que le jour où on le rencontrera, on se dirait « Oh là là, disons, toi, viens m'expliquer un peu comment tu nous parles. » À ce sujet, nous avons beaucoup à dire, dit-il aux chrétiens, aux Hébreux, et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. Non, ce n'est pas moi qui vous dis ça, hein. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, aux chrétiens. Ah, peut-être que vous êtes concernés, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes lent à comprendre, je ne sais pas. Alors que vous devriez depuis le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais du lait. T'es encore au biberon. Ah bon ? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit. Or, le disciple qui demande « Apprends-nous à prier », il demande à avoir une méthode et non pas de rentrer dans une relation avec son Dieu, de grandir à côté de lui jusqu'à progressivement acquérir de l'autonomie, de la maturité. Où en sommes-nous dans nos vies spirituelles, frères et sœurs ? Où en sommes-nous ? Au stade du lait ou bien à celui du beefsteak ? La nature de notre nourriture est fonction du temps passé dans la relation avec le Seigneur, non pas dans des méthodes et des moyens à appliquer pour vivre sa spiritualité. Il en va dans l'Église comme dans le monde. Certains seront au lait toute leur vie et après 45 ans de vie dans l'Église, il y a des personnes que j'ai connues il y a 40 ans et qui sont encore au lait aujourd'hui et qui imitent ce qu'on leur dit et qui ne sont pas dans la capacité à juger des choses avec l'aide du Saint-Esprit. Quelle tristesse ! Quelle tristesse ! La croissance du chrétien repose sur les mêmes principes que ceux qui conduisent l'enfant vers la stature d'adulte. La question qui se pose pour chacun de nous, c'est à quel stade de croissance je suis arrivé ? Ben, donne-moi un système pour prier, mais je te demande de rentrer en relation avec ton Père. La différence entre les Juifs avant Christ et après, le moment où le disciple parle, ils sont dans une période où tous les jours, chaque Juif fait la même prière. le Shema Israël. Alors, vous en avez entendu parler, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, etc. C'est une prière qui commence par ces mots. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un Dieu unique. Vous voyez la différence entre la prière que Jésus propose, c'est Père. Pour les Juifs, c'est Écoute Israël. Depuis des centaines et des centaines d'années, la prière que récite Israël, c'est une prière qui descend du ciel vers Israël. Écoute Israël, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et il récite ça tous les jours. Pourquoi ? Parce que Dieu est tellement saint, tellement parfait, et moi, tellement porteur du péché, que je ne peux pas m'autoriser à prier Dieu et encore moins à l'appeler par son nom. Écoute Israël. Et quand le disciple demande à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus bouleverse. Bouleverse la position de celui qui prie. Tu n'es pas à prier les choses qui descendent du ciel vers toi, mais à prier toi vers ton Dieu et même plus vers ton Père. C'est une prière prophétique qui annonce que le voile du temple va se déchirer, que la croix plantée à Golgotha va donner un accès libre, plein, entier pour chacun des croyants. Est-ce que nous utilisons ce droit, cette possibilité. Écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est le texte du Deutéronome 6. Et en fait, au verset 5, Israël n'est pas en capacité, dans cette liberté, de pouvoir dire « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta confiance. » Voilà. Il reste bloqué à cette prière qui descend. Quand vous priez, dites Père. Le premier mot de cette prière, c'est Père. C'est l'adresse. Vous savez, quand je sais que maintenant, on n'envoie plus de lettres et de cartes postales, hein, mais on envoie des mails. Et moi, quand j'ai... tu me fasses penser, Michel, j'ai une adresse mail qui n'est pas bonne et qui n'arrive pas. Donc... Et vous savez, quand vous faites un envoi collectif, vous avez des adresses individuelles. Et quand vous faites l'envoi collectif, il y a la boîte qui se bloque et dit « Ah oui, mais il y a une erreur dans une adresse. » Et ça, ça m'est arrivé cette semaine à plusieurs reprises. J'ai dit, donc, je suis obligé d'enlever la mauvaise adresse pour que les autres reçoivent le courrier. Apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites « Père ». Ça, c'est l'adresse de ta prière. Pas seulement une adresse, géographique, c'est aussi une adresse relationnelle. Tu as à prier Père. Père, ça introduit cette notion, c'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui pose les limites et des repères. Un psychologue dont je lisais un livre cette semaine disait « Retrouver le Père, c'est retrouver les repères. » En fait, lorsque l'homme s'est séparé de son Dieu et de son Père, il a perdu tous les repères. Quand nous prions et que nous commençons en disant « Père », nous proclamons par la foi que nous avons retrouvé en lui tous les repères essentiels à notre vie. Il permet à l'individu, quand nous disons « Père, d'acquérir la confiance. » C'est ce que Jacques Lecomte, ce psychologue dont je parlais, évoque en disant « Tu retrouves les repères et donc la confiance et la sécurité. » C'est celui qui rend possible la vie, pas seulement pour moi, mais par rapport à moi, mais aussi avec les autres. Il est le complément du rôle maternel qui est basé sur l'affect et l'amour. Alors, je sais que nos pères ont pu être des pères imparfaits. Moi, ouais, j'ai une vie bizarre, j'en ai eu deux. Un que je n'ai pas connu, un que j'ai connu. Et j'ai choisi celui que j'ai connu comme étant mon père. Même s'il était très imparfait, il souffrait d'addiction, il en est mort. Mais quand je le regardais, à l'âge de 4 ans et demi, ma mère est venue me voir avec lui, elle dit, j'avais connu que lui, à côté de ma mère. J'étais trop jeune pour me souvenir de l'autre, que j'ai connu après. Mais elle est venue dans une petite cuisine en terre battue. C'était... Oui, je suis vieux, donc les cuisines étaient en terre battue. Ne me regarde pas comme ça, Yvan. Hein, je t'expliquerai ce que c'est qu'une cuisine en terre battue. Et j'étais en train de jouer sur la table de la cuisine et ma mère est arrivée en disant « Jacques voudrait que tu l'appelles père. » Je n'avais jamais appelé quelqu'un père jusqu'à 4 ans et demi, 5 ans. Pouvoir dire père à un homme qui disait « Je veux t'adopter, je veux que tu sois mon fils. » Et il m'a reçu comme son fils. C'était nouveau pour moi. C'est une expérience que j'ai revécue ensuite quand à 15 ans et demi, je suis rentré dans l'église et qu'à 16 ans et demi, j'ai découvert et accepté que Dieu soit mon père. Alors, j'ai toute une série de mes pages qui sont dans le mauvais ordre. Je sais pas. Il y a quelque chose que je souhaitais partager avec vous. Mes pages sont plus dans le bon ordre, mais il y avait un homme qui s'appelle Jackie Van Thuyn. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, il est né en 1945, il était dans le nord de la France, et puis à l'âge de 14 ans, il est devenu garçon boucher, et il a fondé à 21 ans son entreprise de transport. Puis à 28 ans, ce Jackie Van Thuyn s'est révolté contre le système, il est tombé dans le très grand banditisme, et il a tiré sur des gendarmes, et donc il a été incarcéré en prison. Et en prison, Jackie Van Thuyn a découvert Dieu. Il est resté, je ne sais plus, 12 ou 15 ans en prison. C'est au bout de 10 ans d'incarcération qu'il a rencontré Dieu. Et en sortant, il a dit, quand je me suis converti en prison, j'ai été rempli d'une douceur infinie qui a pénétré tout mon corps. Et tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais apaisé. Il dit, j'étais presque absent de cette prison et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et son témoignage, ça a été de dire, j'ai dit oui à Dieu, je veux que tu sois mon père. Et c'est vraiment le centre de son témoignage. Je veux que tu sois mon père. Et Jackie Van Thuyn, à sa sortie de prison en 1986, est devenu éducateur pour jeunes marginalisés à Tourcoing, là où notre fille a fait ses études. Et puis, il est devenu responsable à Paris d'un centre d'hébergement pour ceux qui sortaient de prison. Et il est devenu directeur d'une association. Alors, l'association... On dit que dans nos métiers, puisque j'ai fait ce travail-là aussi, dans nos métiers, il ne faut pas proclamer sa foi. Donc, il a fondé un lieu d'hébergement qui était un centre d'hébergement et de réconciliation intérieure des sans-toits. Je le dis. Centre d'hébergement et de réconciliation intérieure des sans-toits. L'acronyme, ça fait Christ. À mon avis, il ne l'a pas fait par hasard. Et cette association qu'il a fondée en 1994 a été un lieu d'amour qui a accueilli les personnes en situation précaire et les aide à retrouver toute leur dignité. Et ça a été vraiment une œuvre qui a été phénoménale et déterminante pour un nombre important de personnes. Où est-ce que tu habites ? Moi, je suis hébergé en Christ. Oh, j'aime ça, ouais. J'aime ça. On dirait l'épître aux Éphésiens. T'es où, toi, t'habites où ? En Christ. Et tu vis où avec d'autres ? En Christ. Cet homme a découvert que Dieu était son Père. Alors, pour qu'il y ait une résilience, comme dirait Cyril Nick, ou une guérison de notre relation au Père, je lisais un autre livre qui disait « Il faut qu'il y ait... » trois données, c'est la donnée du lien, de la loi ou de la règle, ou du sens. Tiens, tu peux me mettre la première diapo. En fait, pour que la guérison de mon statut d'enfant s'accomplisse, un psychologue a dit, ben voilà, il y a un triangle fondateur de résilience des enfants, des jeunes, mais aussi peut-être des hommes et des femmes qui ont été blessés, meurtris par la vie. Et il dit, voilà, il faut qu'il y ait à la fois un lien, c'est-à-dire une relation affective d'amour qui puisse trouver sa place, qui donne du sens et qui repose les repères. En fait, ces trois données, ce sont les données qui ont été altérées au moment où l'homme s'est séparé de Dieu. Tout à coup, le lien avec le Père s'est rompu. Et lorsqu'il évoque cela, il dit par exemple que ce lien par rapport au sens va dans les deux directions. Du sens vers le lien et le lien vers le sens. C'est-à-dire, quand on dit du lien, c'est le lien affectif, le lien d'amour, de tendresse. Et il dit par exemple que le lien, quand la flèche va du lien vers le sens, c'est se sentir aimé, permet de donner un sens à son passé et une direction à son futur. Et moi, je trouve que c'est tellement juste. J'aime bien quand les sciences humaines découvrent la réalité de Dieu dans la manière dont nous vivons les choses. Donc, le lien, c'est-à-dire la relation d'amour, la relation tout court, quand vous devez prier, dites « Père !» Eh bien, ce lien-là donne, apporte le sentiment d'être aimé, de donner un sens à son passé. Moi, être aimé par mon père a donné un sens au fait d'avoir été abandonné ou avoir eu le sentiment d'être abandonné. Le sentiment et le lien de mon Dieu, de mon Père céleste, je ne dirais pas qu'il a effacé mon passé, il lui a donné un sens. Est-ce que tu es aussi avec cette nécessité en toi d'avoir et de donner un sens à ton passé et de donner aussi une direction à ton futur ? Eh bien, c'est ce que ton père veut faire. La flèche qui va du sens vers le lien, c'est témoigner, aider autrui, créer des liens. C'est-à-dire que quand on est dans cette position d'aider, de soutenir, parce qu'on a été soi-même enrichi, automatiquement, on a la capacité de témoigner, d'aider autrui et de créer du lien. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous est demandé à la fin de l'Évangile et aller témoigner à la terre entière depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Être aimé par Dieu ne peut pas nous garder dans une position de repli sur soi. Je suis aimé. Oh, c'est bon. Non. Être aimé guérit en moi et me donne la capacité de donner un sens, mais aussi de témoigner, d'aider autrui et de créer du lien. La loi, par rapport à son, au sens, c'est donner des repères à quelqu'un pour construire un avenir. En fait, le sens qui permet d'être aimé, de sentir cet amour, ça pose aussi les règles, le cadre. Avoir un père, c'est trouver des repères. Non ? Quand nous voyons ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé cette semaine, d'hommes qui ont perdu tous leurs repères, même si c'est au nom d'un Dieu qu'on a du mal à comprendre. Mais tous les repères disparaissent. Tous les repères disparaissent. Le sens par rapport à la flèche qui irait du sens vers la loi, ça permet de poursuivre un objectif et à se donner des règles de conduite. Eh ouais. Le sens d'être aimé renvoie aussi au fait que j'accepte les pensées de Dieu, les valeurs de Dieu. Je ne peux plus me conduire ou je ne peux pas me conduire. Je me rappelle d'un jeune homme qui avait été enseigné dans l'Église et qui s'était éloigné de Dieu. Il y est revenu après. Mais pendant la période d'éloignement, il disait « Mais Jean-Marc, explique-moi pourquoi, quand je vais en boîte de nuit avec les copains, je ne peux pas draguer les filles comme eux, ils le font ?» Je dis « Mais qu'est-ce que tu entends par là ?» Il me dit « Bah, quand je suis avec les filles, il y a quelque chose en moi qui me dit « Je ne suis pas juste, je ne suis pas juste !» Je dis « Qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, je le fais quand même, mais je ne suis pas aussi libre que les autres. » « Bah non, parce que le sens que tu as en toi, le sens des choses qui ont été déposées par l'amour et par le lien du Père avec toi, te donne des règles, des valeurs. » Eh ouais, c'est moche, ça, on ne peut pas faire comme ceux du monde. Pas aussi facilement. Et puis je continuerai avec le sens, la flèche qui va du sens vers la loi. Ça permet donc de poursuivre un objectif, conduire à se donner des règles de conduite. Et puis la flèche qui va du lien vers la loi, c'est-à-dire de l'amour, de la relation vers les règles, ça permet d'avoir des amis et de les respecter. C'est-à-dire que quelque part, aimer, ça pose aussi un cadre qui permet de respecter ce que nous aimons. On ne peut pas les traiter n'importe comment. Et puis, la flèche qui va de la loi vers le lien, c'est une attitude respectueuse des autres qui facilite la création de liens. Vous voyez combien ces trois données peuvent être des données que nous intégrons du fait de pouvoir dire simplement « Père ». Découvrir Dieu comme un Père, c'est intégrer ces trois données dans nos vies. Romains 8,15, Paul le dira en disant « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors, j'ai envie de dire qu'on ne va pas regarder le deuxième triangle, mais oh, si, on peut le faire rapidement. Le même triangle avec le lien, le sens et la loi, le lien, il est généré par l'adulte dans la construction familiale, par le père ou la mère. Dans notre relation à Dieu, c'est Dieu. Dieu qui génère ce lien. Nous étions étrangers et il est venu vers nous. Le Dieu qui était au moment de la création et vis-à-vis duquel nous avons dit « Nous ne voulons pas de toi, on va se débrouiller, on va être comme des dieux. Ben, » ce lien a été rompu, a disparu. Et puis Christ à Golgotha a dit « Je rétablis la connexion. Je rétablis la relation. Ce n'est pas venu de nous. C'est Dieu qui a voulu ce lien. » Le sens, il est créé par le jeune, l'enfant par rapport à son père. Le sens des choses, de ce que nous vivons, il est dépendant de l'amour que nous avons reçu et qui vient s'établir en nous. Quel est le sens que tu donnes à ta vie, à tes relations, à tes objectifs? Et puis la loi, le cadre de la loi, lui, il est posé par le Père, par Dieu. C'est lui qui dit « voilà où sont les limites, voilà où ça commence, là où tu peux aller et là où tu ne peux pas aller ». Vous voyez ? Simplement ce mot « Père ». Alors, je vais m'arrêter là parce que on n'a fait que le premier mot du Notre Père. Si on va jusqu'à la fin, on fait l'Assemblée Générale à 18h ce soir. Donc, je vais m'arrêter là, mais vous voyez comment ce disciple qui dit « Mais apprends-nous, donne-nous le mode d'emploi pour prier comme Jean-Baptiste l'a fait. » Et puis avant Jean-Baptiste, comme, je dirais, Moïse l'a appris aux Juifs, Shema, Israël, etc. On fait ça tous les matins. Mais apprends-nous une prière différente. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, Notre Père, ou dites, Père, rentrez dans une relation avec lui, parce que ça lui a coûté cher, pour que vous puissiez prononcer ce seul mot, Abba. Seigneur, nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour que l'Esprit Saint révèle à nos cœurs l'étendue de ta grâce, de ton amour, pour que nous puissions prononcer ce seul mot, Père. Mais nous t'en prions. Donne-nous, jour après jour, conscience de ce que cela comporte comme don de toi, comme volonté d'aimer, comme désir d'aller jusqu'au bout pour que nous puissions le prononcer. Garde-nous de dire ce mot avec légèreté, mais avec toute la conscience de la redevabilité que nous avons envers toi. Tu fais souffler sur nous un esprit d'adoption qui dit qu'aujourd'hui, mes lèvres peuvent dire, mon cœur peut dire, Abba Père, fais-moi rentrer dans la joie de ton salut, dans la joie de l'adoption, maintenant, Seigneur. Amen.